Il est l'heure de retrouver à nouveau Lunchtime. Bienvenue dans ce podcast de Leading Swiss Agencies. Dans ce rendez-vous, deux spécialistes de la branche s'invitent régulièrement pour discuter de ce qui fait bouger le monde de la communication en Suisse et vous donner un aperçu de leur travail quotidien.
Bonjour à tous et bienvenue au LSA Lunchtime Podcast. Je m'appelle Kevin Fanny Derezern. Je suis responsable de la rétention et activation du client chez WebRepublic. Donc, premièrement, la rétention et activation du client, qu'est-ce que c'est ? C'est de trouver des moyens pour fidéliser le client lorsqu'il a un premier contact avec la marque, c'est-à-dire soit de s'inscrire à une newsletter ou de faire un achat, et d'utiliser ces données pour vraiment développer cette loyauté. Et WebRepublic, qu'est-ce que c'est comme agence ? C'est une des plus grandes agences de Suisse, on est 250 employés, et on offre une gamme vraiment large de services digitaux qui va justement de la publicité payante jusqu'à la rétention du client. On essaie vraiment d'offrir toute la gamme de A à Z. Et aujourd'hui, je suis avec Stéphane pour discuter du Drive to Store. Donc Stéphane, qui es-tu et où est-on aujourd'hui ?
Salut Kevin et bonjour à tous. Stéphane Griva, je suis donc l'un des fondateurs et actuels CEO de VNG. Alors VNG, nous sommes des plus anciennes agences digitales de Suisse romande puisqu'on était fondé en 2002, ce qui explique mes quelques cheveux blonds aujourd'hui. Et puis VNG, on est vraiment spécialisé dans l'accompagnement, dans la communication digitale des acteurs institutionnels. Donc ça, c'est vraiment notre métier de base. Mais aujourd'hui, VNG, c'est plus qu'une agence, c'est un groupe qui a différentes finalement compétences à l'interne, des compétences par une agence qui s'appelle Antadis VNG dans la partie e-commerce, des compétences en growth marketing par Rise, qui est une nouvelle structure qu'on est en train de lancer, et puis également beaucoup de participation dans des startups digitales qui font bouger la Suisse romande. Je pense notamment à LegalPass, qui est donc la structure qu'on a pour tous les aspects Legal Tech, et puis également Apollo, qui est le startup studio de Coca, dans lequel on est très investi aussi.
Et aujourd'hui, la discussion qu'on a, ça va être par rapport au Drive to Store. Et je sais que ma mère va écouter le podcast plus tard, donc je dois expliquer ce que c'est parce que c'est un anglicisme. Le Drive to Store.
C'est un excellent test, le test de la maman. Toujours.
Exactement. Le Drive to Store, en fait, c'est des stratégies et tactiques pour essayer de ramener les clients en magasin en utilisant des outils digitaux. On va voir, il y a beaucoup d'outils digitaux différents. Ça peut être rien que les emails, ça peut être WhatsApp, ça peut aussi être Google My Business pour être visible en ligne. Donc, il y a énormément de stratégies qui sont utilisables par rapport à ça. Et donc, le but ultime, c'est d'augmenter la fréquentation des magasins physiques. Et pourquoi est-ce que les compagnies veulent le faire ? C'est pour parce qu'il y a plusieurs avantages en fait d'avoir des gens dans un magasin physique plutôt qu'en ligne, comme par exemple les achats impulsifs, c'en est un, de simplement on fait ses courses, on tombe sur un produit qu'on ne s'attendait pas à être intéressé ou à acheter, et finalement on se rend compte que c'est aussi assez intéressant. Aussi, il y a le côté de l'expertise et le toucher humain, parce que grâce au magasin physique, il y a l'expertise du staff par rapport à la clientèle où on peut vraiment, ils peuvent apporter des informations sur tous les produits, montrer pourquoi est-ce que c'est un produit qui est intéressant pour le consommateur. Et donc, il y a vraiment aussi un intérêt pour les entreprises d'utiliser cette expertise pour essayer de créer plus de conversions.
Je suis sûr que ta maman, là, elle est au top.
Elle est maintenant totalement au clair là-dessus. Et donc, Stéphane, par rapport au Drive to Store, quelle est ta façon de penser par rapport à ça ? Quels sont les gros sujets à discuter sur le Drive to Store ?
Écoute, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que finalement, pendant longtemps, l'industrie, elle a fonctionné en silo. Et si tu regardes la plupart des grands groupes, tu avais d'un côté, tu avais le retail avec le réseau de distribution. De l'autre, tu avais le e-commerce et le digital qu'on donnait un petit peu à des équipes en disant « amusez-vous avec ça ». Et les deux travaillaient dans deux silos complètement étanches avec pas du tout les mêmes personnes, pas du tout les mêmes cultures, pas du tout les mêmes façons de travailler. Et puis, on comprenait pas que le client, là, au milieu, qui est quand même quelqu'un dont ça peut être intéressant qu'on s'intéresse un petit peu, ben, il comprenait pas pourquoi il avait des fois presque l'impression de travailler avec deux entreprises différentes quand il traitait une marque, finalement, en digital ou en physique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi là où on voit qu'on est dans un monde digital qui arrive à maturité, c'est que la marque se dit, tiens, on va peut-être repositionner le consommateur au centre et puis penser l'expérience du client sur l'ensemble des touchpoints et des interactions entre eux. Et je ne sais pas, par rapport à cet aspect de touchpoint, toi, quel feeling tu as, c'est quoi ta vision aujourd'hui ?
Alors, par rapport au touchpoint, comme tu l'as dit, ça a évolué en silo et maintenant on essaye vraiment de merger ça ensemble, de le mettre ensemble. Et ça veut dire qu'il y a toute une expérience qui est en ligne. Énormément de business ont des magasins en ligne et ensuite aussi des magasins physiques. Et ça crée une complexité au niveau des touchpoints parce qu'on doit trouver des façons de le connecter. C'est-à-dire que l'expérience d'un client, d'un consommateur qui va sur le site en ligne doit être la même en fait que lorsqu'il va dans un magasin physique. Et ça, ça veut dire qu'il faut un alignement, comme tu l'as dit, aux façons... du point de vue de l'entreprise, un alignement de différents départements qui n'ont pas la même expertise et ensuite qui doivent essayer vraiment de créer des stratégies qui connectent les deux univers du en ligne et hors ligne. Et j'ai une idée en tête de deux principales thématiques par rapport à cette connexion des touchpoints. La première, c'est ce qui s'appelle le clienteling et la deuxième, c'est le phygital. Donc, au niveau du clienteling, c'est simplement... d'essayer de vraiment de collecter toute cette donnée en fait que le monde digital nous offre parce que à chaque interaction entre le client et la marque on peut toujours collecter des données pour mieux comprendre en fait les préférences et les habitudes du client et ensuite on utilise cette donnée qu'on collecte pour améliorer la relation du client en magasin et surtout pour donner les outils au staff dans le magasin de pouvoir directement accéder grâce au point de vente, par exemple, à l'ordinateur qu'ils ont dans les magasins, pour lorsqu'ils voient un client arriver à l'identifier premièrement et ensuite aussi directement à avoir toutes les informations, par exemple, quelles sont les préférences, est-ce qu'ils ont mis un produit sur leur liste de souhaits et quelle est la taille aussi, par exemple, dans le monde de la mode, la taille des bracelets dont ils ont besoin. Donc, il y a vraiment une amélioration en fait, de la relation client qui se fait grâce à cette collection de données.
Écoute, je pense qu'il y a aussi un point qui est intéressant par rapport à ça, c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Mmh. Parce que finalement, avant le Covid, il y avait vraiment, je dirais, ces deux environnements qui étaient complètement décorrélés. Pendant le Covid, tous les magasins sont passés sur off et finalement, le digital a été finalement, je dirais, le centre de repli de tous les touchpoints avec la marque. Et puis, à partir du moment où ça s'est rouvert, ben pour moi, ça a complètement redistribué les cartes et en se disant, mais comment, par rapport à ça, on va penser mon expérience de marque pour que, par exemple, si je fais, comme tu disais avant, si je fais un achat en ligne, mais j'ai envie de pouvoir retrouver le produit dans mon compte client, à l'inverse, j'ai envie de pouvoir typiquement toucher pour, je sais pas, tu vas acheter un sac à main, t'as envie de voir un petit peu la matière en magasin, de retourner chez toi, de pouvoir finaliser le processus d'achat à ce moment-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça les habitudes de consommation. Et quand tu regardes les millennials, c'est pour eux quelque chose qui est encore plus évident que pour nous. Tu as besoin de cette uniformité d'expérience. Et si on arrive là-dessus, on arrive à un truc qui est très cool. Mais tu vois, notre sujet du jour, on parle du drive to store. Mais en fait, ce que tu évoques aussi par rapport au digital et autres, c'est aussi l'inverse. C'est que finalement, ce n'est pas juste le digital qui amène du monde dans les magasins. C'est également l'inverse. Et puis finalement, comment on fait le reverse et l'expérience en ligne, elle devient cool aussi. Quoi.
Ouais, c'est un très bon point. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir là-dessus parce que, comme tu l'as dit, historiquement, ça s'est développé en silo dans les entreprises entre le en ligne et hors ligne. Mmh. Et maintenant, avec Covid, en fait, il y a ce changement du consommateur. C'est pas simplement que maintenant, ils ont des attentes qui ont changé. C'est qu'ils ont aussi découvert qu'il y a énormément de bénéfices aussi de simplement acheter en ligne. Je pense par exemple à Zalando où on peut commander gratuitement, essayer. Il n'y a pas de prise de risque et ensuite renvoyer gratuitement le produit. C'est du point de vue du consommateur au moins. Moins de l'environnement, mais du point de vue du consommateur, c'est un avantage. Et donc maintenant, ma question par rapport à ça, c'est historiquement, les compagnies étaient en silo, il y a eu le Covid, il y a eu un changement du consommateur. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui se fait de façon facile pour les entreprises de ramener ces gens au magasin ou bien pour toi, ton expérience montre que c'est un sacré challenge quand même?
Moi, je pense que c'est un immense challenge. Et pourquoi c'est un immense challenge? C'est lié à la structure d'organisation des entreprises. Mais si tu regardes au niveau du top management, le top management de la plupart des boîtes, tu n'as pas d'expertise digitale. Tu as des expertises en finance, tu as des expertises éventuellement en RH, en légal. Mais le digital, il y a des expertises, il y a des gens extrêmement compétents au niveau métier dans les équipes opérationnelles, mais pas au niveau du board, pas au niveau du top management. Et aujourd'hui, si tu veux travailler de façon efficace ton digital de façon intégrée, tu dois en fait le penser au niveau de la culture de l'entreprise et donc au niveau du top management. Si tu n'as pas ça, tous les trucs que tu vas essayer de faire, ce n'est pas des questions de process, ce n'est pas des questions de méthodologie, c'est des questions de culture. Et puis, ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, les acteurs qui sont les plus performants dans ce lien digital et dans finalement cette répartition des channels, c'est les acteurs digitaux qui décident d'ouvrir des points de vente physiques. Quand ils le font dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile. Et puis aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que tu as beaucoup de cas où, par exemple, au niveau des performances des équipes ventes, des équipes retail dans les magasins, les équipes, si je prends un domaine, dans le domaine de l'assurance, pendant longtemps, tu avais les agences qui voyaient le digital comme de la concurrence. C'est-à-dire finalement, le chiffre d'affaires qui entre en digital directement sur nos plateformes, il n'est pas imputé aux équipes terrain. Et puis par rapport à ça, ça crée finalement des choses où à l'intérieur d'une organisation, les gens vont commencer finalement à se tirer la bourre, le digital étant vu comme l'ennemi qui me pique des coms. Et puis là, il y a des trucs tout simples, par exemple à dire, finalement, s'il y a de la vente en e-commerce, mais des personnes qui sont dans votre zone d'achalandise, on va compter ces ventes dans vos performances de chiffre d'affaires global et t'alignes les intérêts. Et quand tu fais ça, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus simple.
Ouais, effectivement, je suis totalement d'accord. Et aussi, il y a énormément d'exemples qu'on peut trouver où il y a cette compétition entre la partie en ligne et la partie hors ligne d'une entreprise, et même des cas où, par exemple, ils envoient via WhatsApp, je reviens sur les points de communication, via WhatsApp, certaines compagnies peuvent envoyer en fait des bons d'achat qui sont simplement disponibles hors ligne. Mmh. Et ça, c'est très surprenant pour le consommateur parce qu'effectivement, c'est une stratégie drive to store. Donc, ça veut dire on implémente une stratégie pour essayer de les ramener en magasin. Mais d'un autre côté, il y a ces attentes maintenant de unicité, d'avoir une seule marque à laquelle on s'adresse et pas le hors ligne et en ligne. Et les consommateurs, ils vont simplement prendre ce bon d'achat avec un code, un numéro, et ensuite ils vont aller sur le site web. Et par rapport à ça, ils vont essayer de faire une commande, utiliser le bon d'achat, et malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que c'est simplement hors ligne. Donc ça, c'est un des cas justement où on a ces challenges en ce moment où vraiment les entreprises, elles ont une bonne intention de se dire on va créer du drive to store, on va ramener les gens en magasin, mais dans l'application, à cause de la structure, on a vraiment ces soucis qui se créent. Et tu as parlé aussi de la complexité au niveau du management des entreprises. J'aimerais aussi le ramener aussi de la complexité simplement digitale en ce moment. Parce que même de mon côté, je suis responsable de la rétention et de l'activation du client. Et ça veut dire que j'ai une expertise spécialisée. Mais quand on parle du drive to store, on parle aussi de publicité locale, de publicité en ligne, publicité hors ligne, on parle d'optimisation des engins de recherche comme Google, on parle de données, ce qui est data science, de données qu'on a sur le client. Et en fait, ça devient vraiment difficile d'être un jack of all trades, quelqu'un qui peut faire absolument tout. C'est vraiment un challenge et je pense que toi aussi, en tant que dans ton agence, c'est quelque chose aussi que tu te rends compte qu'il y a vraiment cette attente au niveau de l'expertise digitale qui devient de plus en plus grande.
Je pense que l'attente, elle va plus loin que l'expertise digitale. Elle va finalement dans une notion de client experience. Et finalement, quelque part, on parle d'user experience sur nos plateformes web, mais la question, c'est quoi l'ensemble de notre expérience client et c'est quoi les points qui vont compter pour rendre ton expérience client absolument unique. Et ça, comme je disais avant, casser les silos, c'est pour moi indispensable, mais être capable aussi de comprendre qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui pour les publics de ta marque, qu'est-ce qui va finalement les faire vibrer et faire que tu vas être en harmonie avec eux. Un point que je pensais avant, c'est des aspects aussi liés à la durabilité. Typiquement, on fait du e-commerce, mais derrière, on sait que l'impact de l'ensemble d'aspects de la logistique et de la distribution, il est énorme. Et aujourd'hui, si tu pense aussi sur un lien digital, c'est de dire je peux passer ma commande en ligne où je choisis exactement ce que je veux avec un assortiment extrêmement riche, mais j'ai typiquement un point où je peux directement aller chercher ma commande qui peut être près d'une gare, d'un centre urbain et qui fait aussi que je réduis mon empreinte écologique par rapport à ça. C'est aussi des choses qui vont compter et où on est vraiment sur ce lien entre le physique et le digital et sur quelque chose qui va compter dans l'expérience de la marque. Et tous ces points-là, c'est toutes des réflexions où si tu veux être bon, tu dois tout remettre à plat. Et le challenge pour les organisations, c'est d'être capable de remettre à plat ça, tout en assurant le business continuity qui doit être là, avec des managers qui vont dire « Les gars, votre objectif du trimestre, dans le retail, 7 ans, dans l'online, 7 ans, et vous tenez vos trucs. » Et quand tu dois faire ça en même temps, et de l'autre côté, repenser complètement l'écosystème pour avoir quelque chose d'uniformisé et qui a du sens, je crois que c'est là un des plus grands défis qu'il y a aujourd'hui.
Et ensuite, du point de vue pratique, alors ça c'est vraiment la définition des priorités de l'entreprise, du point de vue pratique, Un conseil que je peux donner par rapport à ce drive to store, c'est vraiment de prendre en compte une équipe plus large que simplement de donner la responsabilité à une personne dans une entreprise. Tu seras responsable du drive to store. Il y a vraiment besoin de définir une équipe de projet où il y a cette expertise transversale pour ensuite pouvoir implémenter une stratégie. Et en parlant de stratégie, pour le rendre aussi un peu plus concret, on a parlé du figital, on l'a pas vraiment défini. Donc j'ai envie de parler d'un exemple par rapport au figital. Le figital, en fait, c'est un mot qui a été inventé entre le physique et le digital, et ça fait exactement c'est dans le but de une des stratégies du drive to store. Et en Suisse et globalement aussi, il y a eu un bon exemple avec IKEA. Parce qu'IKEA, depuis quelques années, ils ont créé, je pense que tu as peut-être aussi vu, Stéphane, ils ont créé un peu partout leur ce qu'ils appellent click and collect stratégie. Donc, dans les centres-villes, ils ont créé des magasins qui étaient au début temporaires. Maintenant, ils sont plus ou moins établis, je pense. Et en fait, ils ont créé cette stratégie click and collect qui veut dire le client peut aller en ligne et il peut faire directement ses commandes. Il n'a pas besoin d'aller, de passer à travers toute le parcours IKEA qu'on connaît tous. Il peut directement aller sur le site internet, sélectionner ce dont il a besoin et ensuite le faire livrer dans un de ses points de vente qui est bien plus central parce que historiquement, IKEA était en dehors des villes plutôt. Et ça, c'est vraiment une très bonne stratégie Drive to Store, à mon avis, parce que ça combine les avantages de la convenience, le confort de faire son achat en ligne. Ça permet aussi d'éviter de prendre son samedi pour aller faire les courses en dehors de la ville. Et en même temps, on arrive quand même à ramener ces avantages d'être dans un magasin. Parce que IKEA, ils n'ont pas simplement mis une salle vide où ils mettent tous les objets, toutes les commandes qui ont été faites, mais ils amènent aussi des produits qui sont les produits, je pense aussi, à un niveau un peu best-seller, ce qui est assez facile, où il y a les achats impulsifs qui sont un peu plus simples. Ils n'ont pas mis une énorme armoire qui est impossible à amener, ils mettent plutôt des produits qu'on peut directement acheter et prendre avec nous.
Ouais. Donc, je pense qu'IKEA, en matière d'upselling, je crois que c'est une référence mondiale absolue. Enfin, je crois qu'on l'a tous vécu et on est exactement là-dedans.
Exactement, ouais. Donc, très bon exemple pour le figital et de voir comment est-ce qu'on peut vraiment développer une stratégie Drive to Store et l'implémenter ensuite.
Ouais, c'est ultra intéressant et tu vois que tous les acteurs du marché sont en train d'aller vers cette convergence. Un autre acteur auquel je pense et qui est vraiment un peu au niveau des techs, moi, un de mes grands coups de cœur actuels, c'est Shopify. Shopify, c'est vraiment une plateforme SaaS e-commerce qui, pour moi, aujourd'hui, est la plus efficiente en termes de conversion qui existe sur le marché. Et on voit, c'est qu'aujourd'hui, au-delà du fait de développer finalement la Rolls des plateformes e-commerce, ce que Shopify est en train de faire, c'est également de se dire, on va conquérir également le marché du retail. Donc Shopify a créé, il y a maintenant quelques années, Shopify Post, donc Point of Sales, où finalement tu peux directement intégrer Shopify dans ton réseau de vente et puis dans chacun de tes magasins physiques, tu auras en gros une interconnexion avec Shopify qui permet finalement d'avoir quelque chose d'intégré. Et ça, c'est super intéressant. C'est que quand ton client, il vient dans ton magasin, je sais pas, tu as un magasin de vente de baskets et puis tu as quelqu'un qui vient chez toi en magasin, il achète la paire de chaussures, directement ça va être lié à ton compte, il va retrouver le tout dans l'historique du compte client. Et là, ce qui devient passionnant, c'est qu'au niveau de la data, tu as quelque chose qui est de complètement intégré et dans l'enjeu de la data, de comprendre toute la data de ton utilisateur. Aujourd'hui, la plupart des marques, ça on n'en a pas encore parlé, c'est que dans la gestion de la data, quand tu as l'e-commerce qui est en silo, ben, tu sais tout de ton client sur ce qu'il fait en ligne, mais tu n'as aucune idée, à moins de t'appeler Migros et d'avoir une carte Cumulus, tu n'as aucune idée sur ce que font tes consommateurs quand ils sont dans les magasins. Tu ne sais pas ce qu'ils achètent, tu ne sais pas quelles sont leurs préférences, quels sont les taux de retour, tout ça, tu passes complètement à côté et on est encore complètement à l'ancienne. Donc sur cet aspect-là, je pense que c'est un truc ultra cool et de voir ce que fait Shopify là-dessus et vu, je dirais, les ambitions de la marque, c'est pas un hasard qu'ils mettent vraiment aujourd'hui le paquet là-dessus. Et quand on parlait effectivement, tu vois, de l'aspect aussi analytics, pour moi, il y a un truc qui est ultra intéressant. Ben, toi, j'imagine que tu es un fan de data avec tout finalement ce que tu t'occupes au quotidien. Mais là aussi, la data analytics en magasin, comment on la récolte, comment on la mesure. Il y a une boîte que je trouve incroyable, qui est une jolie pépite d'ailleurs des startups suisses, c'est Technis. Technis, c'est un business assez sympa. À la base, ils s'étaient dit, on va faire des tapis de tennis connectés pour voir si tes balles sont dedans, dehors. Ils n'ont pas forcément trouvé leur marché là-dessus. Par contre, ils l'ont trouvé en installant des tapis connectés dans des magasins qui mesurent les entrées et sorties de visiteurs, qui mesurent les flux de visiteurs. Et ça, si tu réfléchis, au début de l'histoire, bah évidemment, ils ont décollé grâce au Covid où tu avais des jauges dans les magasins. Mais maintenant, le Covid n'est plus là, il n'y a plus de jauges. Mais crois-moi, tous les magasins, ils l'ont gardé parce que derrière, ça te donne une information tellement précise sur les flux de visiteurs, sur où vont les gens, ce qu'ils font dans les magasins. Et tu as une vraie complémentarité. Tu arrives à être aussi précis que du Google Analytics, mais vraiment sur du comportement physique de tes consommateurs. Et ça, je trouve ça absolument génial.
Ouais, bah, je trouve que c'est des super bons exemples que tu as donnés et j'ai envie de réagir plus ou moins aux deux. Donc, le premier au niveau de Shopify et comme tu as dit, au niveau de la donnée qui est disponible par rapport aux clients. Ça, c'est même dans des entreprises internationales, c'est un challenge que tout le monde est en train d'avoir. C'est que quand on discute avec des gens, tout le monde a ce qu'on appelle des CDP, des Customer Data Platform, où en fait, on prend tous nos touchpoints et toute la donnée qui sont du point de vue de la vente, du point de vue du site internet, du point de vue du trafic en magasin, et on va simplement le mettre sur une base de données centralisée pour pouvoir ensuite les réutiliser pour des actions digitales. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important parce que grâce à ça, du moment où on a eu une bonne vue sur quelles sont les données qu'on a par rapport à nos clients, on peut créer des algorithmes, par exemple, pour comprendre est-ce qu'il y a des clients qui sont plus intéressés à des rabais, est-ce qu'il y a des clients qui préfèrent aller en magasin ou ne pas aller en magasin. Et en général, c'est vraiment un challenge énorme de tout regrouper. Shopify, ça permet justement de centraliser tout ça et d'avoir au moins toute l'expérience sur le site web et l'expérience aussi aussi les données par rapport aux achats qui est centralisée. Donc, ça permet ensuite de maximiser énormément de points de communication. Ça peut être rien que les emails, mais aussi si ensuite le client veut implémenter WhatsApp ou des SMS ou des notifications push, on n'a même pas encore discuté de ça, qui est très important pour le Drive to Store, bah, en fait, ils ont besoin de ces données. Donc, Shopify, ça aide à ça. Et ensuite, maintenant, j'y pense, grâce à ton exemple de Technis, de comment est-ce qu'on arrive à voir le comportement des clients en magasin, ça reste quelque chose qui est encore à l'extérieur de Shopify. Et de trouver ensuite un moyen d'essayer de connecter ces données avec Shopify. Ouais.
Ça, c'est l'enjeu. Pour moi, c'est de la cohérence de la data globale. Pas finalement avoir d'un côté, tu as tes Shopify, de l'autre, tu as ton Google Analytics, tu as un truc. C'est comment tu vas te retrouver à avoir un environnement digital complet et intégré.
Ouais, et ça, c'est un sacré challenge aussi. Et donc, quand j'ai parlé des points de vue des points de communication par rapport au Drive to Store, j'ai juste noté maintenant les notifications push. Et je voulais aussi...
Ouais, c'est une bonne idée, ça, faut qu'on en parle.
Exactement, il faut qu'on en parle par rapport au Drive to Store parce que c'est un des éléments les plus efficaces, à mon avis. Donc, par rapport aux notifications push, ce qu'on peut faire, et pas uniquement les notifications push, d'ailleurs aussi par exemple les publicités en ligne, on peut réussir à cibler des clients dans une certaine zone géographique. Et ça veut dire que si on crée un marketing local où on dit « Ah bah dans ce magasin, on sait qu'en ce moment, on a certains rabais qui sont intéressants pour ces clients-là », on arrive grâce à ces outils à en fait envoyer une notification push directement à un client qui est peut-être à 500 mètres du magasin en lui disant « Aujourd'hui, c'est votre chance, vous avez le produit qui est sur votre liste de souhaits à ce rabais, venez dans le magasin, faites l'achat et profitez de cette opportunité en fait. »
C'est cool parce que c'est comme ça que tu crées une expérience client qui va être absolument unique. Et puis ton client, je veux dire, c'est quelque chose qui va le marquer, qui va donner de l'impact. Et je crois que c'est exactement ce qu'on a besoin aujourd'hui.
Et c'est cool. Et malgré ça, malgré que c'est mon job en tant que responsable de la rétention, j'ai aussi envie de mettre un petit disclaimer par rapport à ça. Dans le sens, c'est vraiment cool lorsque le client est informé de comment est-ce qu'on utilise ces données. C'est d'ailleurs un peu une nécessité en ce moment avec, du point de vue GDPR, par exemple, d'avoir l'obligation de dire on traite vos données On peut utiliser vos données pour définir des algorithmes qui essaient de définir vos préférences. Donc, c'est vraiment important du point de vue de l'entreprise d'être honnête avec ses clients au final et de leur dire que pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de certaines informations et qu'est-ce qu'on a fait ensuite. Parce qu'on peut vraiment passer du point de vue de « Ah, c'est quelque chose qui est vraiment un bénéfice pour le client » Ah, c'est un petit peu creepy, ça fait un peu peur d'être suivi comme ça.
C'est extrêmement juste. Et aujourd'hui, je crois que le data privacy, c'est vrai que des fois, en tant que marque, on se dit, mais en fait, c'est une immense épine dans le pied, c'est compliqué. Mais en fait, c'est une immense opportunité parce que ça permet de réfléchir à quelles sont les informations que tu vas traiter, pourquoi, et puis aussi d'être finalement pédagogue par rapport à tes clients et de dire aujourd'hui, ce qu'on fait de la data qu'on récolte, c'est pour vous offrir une expérience client qui va être meilleure. Ce n'est pas effectivement pour commencer à aller faire des dark patterns ou des choses qui pourraient être obscures.
Exactement. Et par rapport à ça, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui pensent toujours « Ah, j'aime pas être suivi ou donner mes données par rapport aux entreprises », c'est mon cas aussi pour énormément d'entreprises. Par contre, du moment où il y a vraiment une plus-value dans le service, c'est quelque chose où, en général, les consommateurs sont prêts à aussi être plus transparents par rapport à leurs informations. Et je pense à un cas précis. Où je suis toujours surpris à la fin de l'année à cause de Spotify. Donc Spotify, en fait, ils vont envoyer à la fin de l'année un résumé de toutes vos interactions avec la marque et plutôt que de dire « Ah, mais ça fait vraiment peur, cette entreprise a écouté tout ce que j'écoutais en réalité, tous mes goûts, tous les morceaux que j'écoute où les gens ne s'attendraient peut-être pas à un morceau de Céline Dion que j'écoute en boucle », et ben au final, ils me montrent ça, ils disent « Vous avez écouté, voilà, ça c'est votre top artiste, c'est les genres que vous écoutez », et les consommateurs s'en plaignent pas tellement, c'est à l'opposé, ça devient viral sur les sites, sur les réseaux sociaux, les gens ils sont fiers de dire « Ah ben je suis dans le top 0,5% de Kendrick Lamar ou autre », et c'est vraiment, ils ont réussi en fait à collecter des données et de rendre une plus-value en fait pour le client par rapport à ça.
Ouais, mais tes notions clés là derrière, c'est la transparence, et je crois que c'est ce que les gens attendent, c'est de la transparence, et tu vois toutes les marques qui font une vraie démarche authentique sur la data privacy, ben on voit qu'ils augmentent finalement la satisfaction de leurs clients. Donc en gros, on est exactement là-dedans.
Exactement. Alors, je pense qu'on peut gentiment offrir un résumé de ce dont on a parlé.
Ça va beaucoup trop vite, c'est ça.
Exactement. Ouais. Mais faisons un petit résumé pour voir en fait qu'est-ce qu'on pense du Drive to Store. Donc comme on l'a dit, on a décrit le Drive to Store, on a dit qu'il y a énormément d'entreprises en ce moment qui essayent de ramener les gens en magasin, principalement aussi à cause des effets du Covid et que les consommateurs ont remarqué qu'il y avait un avantage aussi à faire les achats en ligne. Mais on va aussi maintenant de plus en plus dans la direction en disant ils ne s'attendent pas uniquement à avoir cette expérience en ligne, mais aussi l'expérience hors ligne qui va avec. Donc les entreprises maintenant essaient de pousser pour ça. Et elles utilisent énormément de différents touchpoints, majoritairement vraiment les communications, les modèles de communication comme les emails ou WhatsApp ou les SMS, push notification. Et ça, en fait, ça demande cette nécessité d'avoir une compréhension du client grâce aux données. Et on a vu que par rapport à ça, il y a énormément d'entreprises qui le font. On a pris le cas de Shopify, qui montre que sur Shopify, en fait, ça résout un peu le problème que beaucoup d'entreprises ont d'avoir des données sur les consommateurs, mais qu'ils ne peuvent pas utiliser parce qu'elles sont répandues un peu partout dans l'entreprise. Et on a parlé finalement du géociblage par rapport aux bénéfices en fait, des notifications push aussi. Est-ce que j'ai raté un point que tu as envie de noter de nouveau ?
Écoute, non, je crois qu'on est pas mal. Comme on disait, effectivement, cette expérience client uniformisée. Et moi, je crois que le plus grand tip qu'on pourrait donner un petit peu pour clôturer, c'est si on veut être bon dans une expérience Drive to Store et puis une expérience un petit peu globale de la marque sur ses supports, le challenge en tant que marque, c'est comme on disait, c'est de repenser l'organisation. Le digital aujourd'hui, c'est plus finalement une fonction de l'entreprise, c'est un état d'esprit, ça fait partie de la culture. Et l'entreprise qui, depuis son top management, va être capable de transpirer les valeurs qu'il y a derrière sur l'ensemble de l'organisation, c'est une entreprise qui arrivera et qui arrivera à accompagner ses clients sur l'ensemble du cycle.
Merci beaucoup pour ça, Stéphane. Et est-ce que tu as aussi des takeaways par rapport à notre discussion ou trois points que tous nos auditeurs vont pouvoir prendre et pouvoir se dire « si je dois penser Drive to Store, c'est quelque chose dont je dois me souvenir ».
premier point, je crois qu'on l'a dit déjà pas mal avant, c'est la cohérence. C'est d'arriver à avoir quelque chose où l'expérience de marque, que tu sois en ligne, que tu sois en app mobile, que tu sois dans un magasin, que tu sois en lien même au téléphone avec le service après-vente, l'expérience de marque, elle doit être alignée. Si tu as des trucs qui sont pas alignés aujourd'hui, tu vas directement, ça va directement, ça va pas le faire. Donc c'est vraiment extrêmement important d'être sur cette cohérence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment d'exploiter cette multicanalité. Chaque canal a ses spécificités et chaque canal permet d'enrichir l'expérience client d'un point de vue global. Donc pas avoir peur de jouer à fond sur ces complémentarités, sur tout d'un coup la faiblesse d'un canal qui peut en fait être extrêmement cool sur autre chose, et vraiment de jouer cette transversalité, pour moi c'est clé. Et puis le dernier point, comme je disais avant, c'est la question de l'analyse. C'est comment en tant que marque tu vas être capable de maîtriser l'ensemble de ta data CRM sur l'e-commerce, évidemment c'est assez facile avec l'analytics, mais également sur le physique. Et de ton côté?
Pour moi, les trois points dont on peut se souvenir, le premier, c'est la collecte et l'utilisation des données clients. On a parlé, on a un peu moins parlé de la collecte, mais c'est quelque chose qui se fait de façon de l'utilisation, par exemple, du site web, les achats que les consommateurs font sur votre site web et de comment est-ce qu'on peut en fait, ensuite, du moment où il y a une certaine donnée, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour implémenter ces stratégies Drive to Store ou des stratégies communication en général. La deuxième, c'est l'importance en fait de la personnalisation, comme on dit, et des promotions, les recommandations. Donc les clients, maintenant, ils ont ces attentes. C'est pas uniquement un rabais que je veux, c'est vraiment un rabais sur le produit qui m'intéresse. Donc si vous me donnez 20% sur le produit que j'ai jamais regardé et que j'ai pas d'intérêt, par exemple, si j'ai pas d'enfant et que vous me donnez sur des habits pour enfants, ça va pas vraiment m'attirer. Donc la personnalisation des promotions et les recommandations, quelque chose aussi de très important. Et finalement, ce point de vue du géociblage qui est vraiment important pour le Drive to Store, parce que le Drive to Store, c'est une stratégie un peu différente dans le sens où on pense toujours marketing global ou marketing simplement de l'entreprise en général. Et le Drive to Store nous force à penser local. Et ça veut dire, grâce au géociblage, on doit définir des campagnes de publicité payante ou des campagnes simplement d'email ou autres qui sont dédiées simplement à un certain endroit physique sur la carte. Donc on ne peut pas dire, ah ben maintenant on va tout envoyer en Suisse, on a 2 millions de consommateurs qui vont recevoir mon message, mais vraiment de trouver, c'est uniquement ces consommateurs qui passent près du magasin qui sont censés voir en fait le message qu'on leur envoie. Donc voilà, merci beaucoup Stéphane pour cette discussion.
Merci à toi Kevin, c'était très chouette.
Je pense qu'on aurait pu encore en passer quelques heures à discuter de ça, mais on le fera peut-être plus tard autour d'un verre.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Allez, au revoir à tous.
Lunchtime touche malheureusement à sa fin. Merci de votre attention et au plaisir de vous avoir à l'écoute pour le prochain épisode.